BW. Vue d'Allemagne.
C'est entraînant, hein? Bon, un peu répétitif, mais entraînant ce que vous entendez là, c'est la musique d'une superbe vidéo du zoo de Berlin, une ourson polaire qui joue dans l'eau, qui se roule dans des copeaux de bois, qui tente de fuir sa mère. Petit ours polaire né au mois de décembre dans le zoo de la capitale allemande et présenté au public en vrai depuis le week-end dernier. C'est l'attraction de Berlin depuis quelques jours et ça fait le tour du web. Mais on s'est dit que faire toute une émission là-dessus, c'était bien mignon, mais que ça nous avancerait peut-être pas grand-chose. Et que pour sauver les ours polaires, il était peut-être encore mieux de compter sur des décisions de nos élus politiques. En plus, il y a des élections européennes dans tout pile deux mois, le 26 mai. Et donc, c'est moins mignon, j'en conviens, mais on se penche aujourd'hui un peu sur les programmes des partis allemands pour ce vote des députés dans toute l'Europe. Et puis pour l'ours polaire, tant pis, hein, pour se consoler, on vous mettra la vidéo sur la page de Vue d'Allemagne. Et puis ce magazine, vous le savez, ce sont aussi des grands reportages. Alors après la politique allemande, dans la seconde partie de Vue d'Allemagne, on prend la direction du Liban. Un projet peu commun a été lancé là-bas, des potagers bio pour réunir réfugiés syriens et libanais autour d'une activité commune et créer du lien. On sera avec eux les mains dans la terre dans 5 minutes. Vue d'Allemagne, Guten Tag, bonjour quand même, c'est le dernier numéro de ce mois de mars. Vous avez le sommaire, Los Gates, c'est parti. Pour la paix, la sécurité, la prospérité, ensemble pour rendre l'Europe plus forte, renouveler la promesse de l'Europe pour une Europe de la liberté. Voici quelques-uns des slogans des partis allemands pour les élections européennes du 26 mai prochain, élections pour élire quelques 700 députés européens. Des députés dont on connaît souvent mal le travail, mais qui prennent des décisions aux répercussions importantes sur la vie quotidienne en Allemagne et dans toute l'Europe. La répartition de l'argent de la politique agricole commune, par exemple, pour financer des primes pour les agriculteurs ou des parcs nationaux, plus de 50 milliards d'euros par an, ce sont eux, les députés, en partie en tout cas. L'interdiction prochaine des cotons-tiges en plastique avec lesquels plus de 500 millions d'Européens se lavent les oreilles dans leur salle de bain le matin, c'est encore eux, ces mêmes eurodéputés. Alors de l'agriculture à nos oreilles, il y a des milliers de dossiers auxquels contribuent ces députés européens, dont 96 sont allemands. Alors quel programme pour eux qui se présente le 26 mai prochain en République fédérale? La CDU-CSU, l'alliance autour d'Angela Merkel, vient de présenter le sien cette semaine. On connaissait déjà les autres. Des centaines de pages d'intentions en cas d'élection, qu'on ne va pas toutes lire ici aujourd'hui, mais on se penche tout de même sur les programmes des partis avec Stefan Seitendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Il revient d'abord sur le programme des conservateurs allemands, centré sur un projet commun d'économie et de sécurité en Europe face aux États-Unis ou à la Chine.
Il essaye de trouver un équilibre entre un positionnement d'un côté pro-européen, puisqu'il y a clairement dans le débat allemand comme une reproche que la CDU, le parti de Adenauer et de Kohl, le parti de l'Europe en Allemagne, ne respecte plus cet héritage, ne serait plus vraiment pro-européen, notamment parce qu'ils n'auraient pas été capables de saisir la main du président français et de vraiment développer des propositions communes. Donc contre cette reproche, ils essayent de se positionner comme parti pro-européen qui est clairement constructif, qui veut approfondir l'Europe, mais en même temps, ils ne veulent pas être traités d'euro-béate ou un peu illusoire sur une Europe qui promettrait tout à tout le monde. À la place, ils essayent de mettre l'accent sur cette politique commune aux frontières, avec Frontex, avec une police des frontières européenne, et aussi une plus grande solidarité sur la question des migrations. En regardant de près le programme, il reste un peu vague de comment on peut vraiment le faire si on se décide au niveau européen et les différents partis membres finalement ne veulent pas participer, comme déjà actuellement avec la Pologne, la République tchèque, l'Hongrie qui visiblement ignore les recommandations ou les décisions européennes en la matière.
Et vous, on parlait de la CDU, c'est un programme, ce programme de la CDU, de CSU, se démarque complètement, on peut dire, de celui du SPD, qui est plus parti plus à gauche, Parti social-démocrate, qui, pour se démarquer, justement, insiste là sur le social. On parle de salaire minimum équivalent à 60% de ceux du salaire moyen dans toute l'Europe, de standards minimum sociaux sur tout le continent. C'est un programme, le SPD, social, si on peut dire ça comme ça.
Oui, en quelque sorte, ce qu'on a vu au niveau national se prolonge sur cette campagne des européennes. Le SPD, qui vraiment se trouve dans une situation existentielle.
Oui, parce que le SPD, il faut rappeler, a perdu beaucoup de voix dans toutes les élections récentes en Allemagne.
Et se retrouve devant des sondages très catastrophiques. Donc on ne peut plus parler de grands partis de masse ou partis populaires. Ils cherchent actuellement, par un positionnement plus à gauche, de retrouver leur électorat traditionnel de gauche. Et ça se prolonge évidemment avec la campagne des européennes, qui a l'avantage qu'on n'est pas sous la pression de trouver un compromis avec le partenaire au gouvernement, que c'est une campagne électorale, donc on peut proposer beaucoup de choses à beaucoup de monde. Ils sont assez proches des idées véhiculées en France et notamment aussi par le président français.
Et on parlait des deux principaux partis les plus représentés, en tout cas pour le moment, dans les 96 sièges allemands au Parlement européen, en tout cas. Vous parliez des sondages, juste derrière eux, justement, dans les sondages. Aujourd'hui, il y a les Verts, dit Grünen, qui, eux, montent dans les sondages et insistent dans leur programme, évidemment, beaucoup sur l'environnement, qui s'impose comme un thème important dans la campagne aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Les Verts aussi, les Grünen, sont les seuls des partis qui misent sur un programme clairement pro-européen, pro-intégrationniste et qui cherche à consolider, approfondir l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Évidemment, il y a tout un électorat, plus ou moins au centre, qui est sensible à cette proposition et qui serait tenté de voter les Verts, qui explique leur envolée dans les sondages actuellement. Et en même temps, on voit que les deux autres partis, ils essayent de prendre ça en compte. Le CDU parle aussi du climat, parle beaucoup de climat aussi dans son programme. Et le SPD essaye de se positionner de manière plus pro-européenne qu'il le fait au gouvernement. Les Verts, ils ont une longueur en avance, puisque ça fait déjà plus longtemps qu'ils parlent du climat, évidemment, ils sont plus crédibles que les CDU là-dessus, et ils ont ce positionnement pro-européen depuis plus longtemps que les SPD actuels.
Et vous dites les Verts sont peut-être les seuls pro-européens. Vous voulez dire que les autres partis, là, on parlait de la CDU, de la CSU, du SPD, sont moins pro-européens dans leur programme ?
Oui, ils essayent de prendre un positionnement euro-réaliste, de jouer sur deux partitions, s'adresser à un électorat eurosceptique pour le CDU, tenter d'aller voir du côté des extrémistes de l'AFD, et en même temps donner des gages que finalement c'est quand même des partis raisonnables, c'est-à-dire pro-européens, au centre de l'échiquier politique. Et tout ça passe sans problème. Le message, il est plus clair, il est plus direct du côté des Verts, qui n'ont jamais hésité sur leur positionnement en faveur d'un approfondissement de l'Union européenne.
À l'opposé, il y a l'AFD, le parti d'extrême droite, qui monte aussi dans les sondages. Il est aujourd'hui autour de 9%, je crois, selon un dernier sondage de nos confrères de la télévision publique allemande. L'AFD propose un programme, on pourrait dire, classique pour le parti. Il demande à limiter l'immigration pour protéger l'Europe, c'est ce qu'il dit. Et le parti parle aussi d'un Dexit, d'une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne.
Oui, en quelque sorte, c'est un parti qui trouve ses origines dans la critique de la manière dont a été traitée la crise de l'euro. Donc c'était quelque chose de très économique, très allemand dans sa manière de critiquer l'Europe. Entre-temps, ils ont fait une évolution vers l'extrême droite avec des thèses classiques de l'extrême droite, anti-immigration, parfois avec des relents xénophobes, voire carrément racistes. Du coup, leur positionnement sur l'Europe est devenu beaucoup plus extrême aussi, même jusqu'à aller à demander une sortie de l'Allemagne et de l'euro de l'Europe, même si on ne sait pas comment ça pourrait fonctionner, puisque ce serait à toute évidence la fin de l'Europe intégrée si la France, tout comme l'Allemagne, décidait de sortir de l'Europe. En même temps, ils sont un peu poussés par le CDU vers les extrêmes, puisque le CDU essaye d'occuper, de regagner du terrain perdu face à l'AFD, notamment en ce qui concerne sur la question de l'immigration, sur la question de l'euro aussi. Et du coup, le AFD essaye d'être encore, d'aller encore plus loin, d'être encore plus, plus extrême.
Et comment, vous l'aviez un petit peu évoqué, comment se positionnent les partis moins hauts dans les sondages, mais qui comptent aussi, que sont par exemple le FDP et Die Linke par rapport cette élection européenne?
Après Die Linke, ils sont tiraillés entre un soutien critique, mais soutien tout de même de l'Union européenne, et un courant qui prône la révolution, il faut abolir, sortir des traités et refonder le tout. Ils sont clairement dans la tradition internationaliste de l'extrême gauche, mais quand ça devient concret, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent. Sur leur dernier congrès du parti, une petite majorité s'est imposé avec une ligne pro-européenne à soutenir l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, avec un accompagnement très critique et cette volonté de réformer en profondeur, notamment un positionnement anti-militariste contre les tendances actuelles d'aller plus loin sur la défense commune et la politique de sécurité commune. Outre ces questions-là, ils vont très loin dans leur demande d'une Europe solidaire et sociale et solidaire, avec également très peu de propositions concrètes qui pourraient convaincre sur comment mettre en œuvre le même SMIC, par exemple, entre la Bulgarie et la France ou l'Allemagne. Le FDP. Donc les libéraux, ils ont longtemps hésité quelle position adopter face aux grands partis. Ils étaient tentés par un euroscepticisme qui trouve son origine toujours dans cette critique du sauvetage de l'euro. Entre-temps, ils ont vu qu'il y avait une possibilité un peu inespérée avec Emmanuel Macron qui a cherché de se rapprocher du parti européen des libéraux, donc de l'ALDE, ALDE, et que du coup, il pourrait faire campagne plus ou moins commune avec Macron et surfer un peu sur sa popularité qui est toujours grande en Allemagne. Et du coup, il se développe prudemment vers un positionnement pro-européen, notamment avec un argument qu'il faut encore approfondir le marché commun et qu'il faut aussi se positionner en tant qu'Européen sur la scène internationale pour, dans le cas de l'Allemagne, permettre d'éternaliser cette politique économique qui mise sur les exportations pour l'Allemagne.
Stefan Zeitendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand du Ludwigsburg sur ces élections européennes du 26 mai prochain. Il reste 2 mois avant le vote, on y reviendra dans un prochain numéro. Et en attendant, merci à Stefan Zeitendorf d'avoir répondu à nos questions pour, on l'espère, vous donner quelques premières pistes de compréhension des visions politiques allemandes vis-à-vis de l'Europe. Vue d'Allemagne, deuxième partie, on part au Liban. C'est là-bas qu'une ONG libanaise et l'association Bouzourma Jozourna ont décidé de créer des potagers de fruits et légumes bio pour les réfugiés syriens. En fait, ce sont ces réfugiés directement qui entretiennent les potagers avec des Libanais. L'occasion de se rencontrer, d'apprendre à se connaître autour du travail, alors même que les autorités libanaises appellent à renvoyer ces réfugiés au plus vite en Syrie. Le bio comme outil de développement et de coexistence, c'est un reportage d'Emmanuel Haddad.
Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans la formation que vous avez reçue ? Écoute, Donna, nous avons aimé la partie sur le fumier et le compost qui permettent de ne pas dépenser d'argent. Moi, je suis convaincue à 100% car il n'y a pas de perte.
Employé de l'ONG Amel, Donna demande à des femmes réfugiées syriennes assises devant leurs tentes de bâches et de bois un retour sur les potagers bio que l'ONG libanaise leur a aidé à créer dans le camp de réfugiés syriens de Sarada, situé au sud du Liban. Fatma, originaire de Raqqa où elle possédait un champ de coton, y voit un outil pour le futur de sa famille en Syrie.
Je m'appelle Fatma Issa Yassim, j'ai 57 ans. Cette formation nous sert pour l'avenir. Si ce n'est pour le mien, je vais l'apprendre à ma fille et à mon fils pour que, quand ils retourneront en Syrie, ils puissent monter un petit projet sans investir beaucoup d'argent, comme nous l'ont enseigné les formateurs agricoles.
Après 8 années de conflits meurtriers en Syrie, les autorités libanaises pressent pour le retour des réfugiés syriens. Déjà 90 000 d'entre eux sont retournés en Syrie depuis le Liban entre juillet et novembre 2018, selon la direction de la Sûreté Générale libanaise, bien que l'agence de l'ONU pour les réfugiés n'a pu confirmer que 16 700 retours. Mais cette option reste menaçante, tant l'incertitude domine sur la situation qui attend le million de Syriens réfugiés au Liban dans leur pays d'origine.
Notre maison n'a pas été détruite, mais il y a une semaine, nous avons appris que les objets, les meubles, tout avait été pillé. Nous n'avons plus rien. Nous pensons, si Dieu le veut, à revenir construire notre pays, à rentrer. Mais nous recevons des informations que d'ici quelques jours, il y aura des attaques. Il y a encore des problèmes sur place. On ne peut pas rentrer. Ça me fait trop peur. C'est soit mourir là-bas, soit ici.
Conscient que la majorité des Syriens ne pourront pas rentrer chez eux dans des conditions sûres avant longtemps, l'ONG Amel a développé un projet d'agriculture biologique à destination de familles syriennes et libanaises à Ouazzani et Ralsal, deux villages du sud et de l'est du Liban. Comme l'explique Lucas Wintrebert, coordinateur de projet pour l'ONG.
L'idée, c'est donc d'aider des familles syriennes et libanaises, moitié-moitié, à construire un jardin à côté de chez eux, dans le camp pour les Syriens, dans le village pour les Libanais. Et ensuite, on demande à une personne par famille donc de représenter la famille et de participer aux formations. Donc il y a 14 jours de formation sur les différents thèmes de l'agriculture biologique. Ça paraît peut-être un peu absurde de faire de l'agriculture biologique en se disant que c'est peut-être pas le besoin principal, que c'est quelque chose de très occidental, etc. En fait, on se rend compte ici qu'il y a une espèce d'agriculture biologique de nécessité, avec l'idée que c'est d'utiliser des techniques moins consommatrices en eau, en intrants extérieurs, parce que les produits chimiques coûtent cher, sont difficiles à se procurer, pareil pour les graines, etc. Et avec une autre composante du projet qui est des formations plus poussées pour les gens qui souhaitent approfondir et qui va se faire dans la ferme école de Saad Nayel avec notre partenaire Bouzourna Jouzourna.
Donc on est arrivé à Bouzourna Jouzourna, qui est la ferme école située dans la Beka. Fatma, qui vient de Ouazzani, et d'autres membres du village sont venus aujourd'hui pour se former à différentes techniques d'agriculture biologique. Et là, on va travailler le compost. Fatma, tu as déjà fait du compost ?
Non, il faut prendre des restes alimentaires et les mettre ici et les mélanger avec de la sûre. L'idée, c'est d'utiliser tous les déchets organiques, la viande, le fromage et les agrumes.
Venu assister à la formation agricole, le coordinateur du projet de potager bio d'Aralsal, un village frontalier avec la Syrie d'où partent fréquemment des convois de Syriens vers leur pays, rappelle que les échanges transfrontaliers entre les deux voisins ne datent pas d'hier.
Je m'appelle Maré Fliti de l'ONG Amel à Ersal. Nous n'avons pas senti au long du projet qu'il y avait une différence entre les Syriens et les Libanais. D'ailleurs, avant la crise syrienne, un grand nombre de Syriens venaient travailler dans le secteur agricole au Liban. Une fois améliorée la situation sécuritaire en Syrie, les réfugiés pourront rentrer chez eux, mais ils reviendront quand même au Liban. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ont tissé des relations ici et développer un réseau. Ils ne pourront pas renoncer à revenir ici.
Depuis qu'un gouvernement a finalement été formé au Liban, après 8 mois d'incertitude, les autorités libanaises multiplient les appels au retour des réfugiés syriens. Mais malgré la victoire militaire annoncée par le régime syrien dans un conflit qui a fait plus de 360 000 morts, la communauté internationale estime que les conditions pour un retour volontaire des 6 millions de réfugiés syriens éparpillés dans le monde entier ne sont toujours pas réunies.
Reportage d'Emmanuel Haddad au Liban pour la Deutsche Welle, un reportage et une émission à retrouver sur le site de la DW. En attendant le prochain numéro, ce sera la semaine prochaine avec Anne Letouzé. D'ici là, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite alles Gute, tout bon, une bonne semaine. Bis bald, à très bientôt. Tschüss.